Votre petit Larousse illustré à Deleuze, qui s'écrit aussi avec un D. Alors, il y a Deleuze, Gilles, philosophe français, né à Paris en 1925. Voilà, aujourd'hui, on est en
80.
Avec Félix Guattari, il montre l'importance du désir et son aspect révolutionnaire face à toute institution, même psychanalytique. Et y mettre, démontrant tout cela, l'anti-Oedipe en 72. Alors justement, puisque tu passes aux yeux de tous pour le philosophe du désir, je voudrais qu'on parle du désir. Alors le désir, c'était quoi exactement? Prenons la question le plus simplement du monde, quand l'anti-Oedipe...
C'était pas ce qu'on a cru en tout cas. Je suis sûr, c'est pas ce qu'on a cru, même à ce moment-là, même, je veux dire, les gens les plus charmants qui étaient... Ça a été une grande ambiguïté, ça a été un grand malentendu, quoi, un petit malentendu. Moi, je crois qu'on voulait dire une chose, mais vraiment très simple. Si on avait bien une grande ambition, à savoir que jusqu'à celui, quand on fait un livre, c'est qu'on prétend dire quelque chose de nouveau. On prétendait que, d'une manière ou d'une autre, les gens avant nous, ils n'avaient pas bien compris ce que c'était que le désir, c'est-à-dire... On faisait notre tâche de philosophe, on prétendait proposer un nouveau concept de désir. Mais dans les concepts, il ne faut pas croire que... faut pas que les gens, quand ils ne font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Ça, on le verra, c'est... presque ça renvoie... Il n'y a pas de concept philosophique qui nous renvoie à des déterminations non philosophiques. C'est très simple, c'est très très concret. On voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Alors, vous pouvez dire, je désire une femme, je désire partir, faire tel voyage, je désire ceci, cela. Et nous, on disait une chose très vraiment simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables? Je veux dire, je ne désire pas une femme, là, j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens. Et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme-paysage, mais c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire », une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier. Mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Alors là, on pourrait revenir, c'est autant de fait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool, boire. Mais boire, ça n'a jamais voulu dire je désire boire, et puis voilà. Ça veut dire ou bien je désire boire tout seul en travaillant, ou bien boire tout seul en me reposant, ou bien aller retrouver les copains pour boire, aller dans tel petit café. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule, je dis bien qui ne coule dans un agencement. si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. L'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil,
d'une femme,
d'une rue, voilà. L'agencement d'une femme, d'un paysage, d'une couleur, voilà, voilà ce que c'est un désir. C'est donc construire un agencement, c'est construire une région, c'est construire, c'est vraiment agence. Le désir, c'est du constructivisme. Alors, je dis, nous, l'anti-Édipe qui essayait de faire la...
Oui. C'est justement parce que c'est un agencement que tu as eu besoin à ce moment-là d'être deux pour la créer. C'est dans un ensemble qu'il fallait Félix, qui a surgi à ce moment-là dans ta vie d'écrivain.
Est-ce que Félix, là, ça ferait aussi partie de ce qu'on aura peut-être à dire à propos de l'amitié, du rapport de la philosophie avec quelque chose qui concerne l'amitié. Mais sûrement qu'avec Félix, on a fait un agencement, oui, ça. Il y a des agencements tout seul, encore une fois, et puis il y a des agencements à deux. Félix, tout ce qu'on a fait avec Félix, c'est un agencement à deux, ou quelque chose passé entre les deux. C'est-à-dire, tout ça, c'est des phénomènes physiques. Hein. C'est comme une différence. Pour qu'un événement se passe, il faut une différence de potentiel. Bon, pour qu'il y ait une différence de potentiel, il faut deux niveaux, il faut qu'il y ait deux. À ce moment-là, quelque chose se passe, un éclair passe ou pas, un éclair ou un ruisseau, un petit ruisseau. Bien, et c'est du domaine du désir. Mais un désir, c'est ça, c'est construire. Construire, or, chacun de nous passe son temps à construire. Chaque fois qu'il dit, pour moi, chaque fois que quelqu'un dit, je désire ceci, ça veut dire qu'il est en train de construire un agencement. Et c'est rien d'autre. Le désir, ce n'est rien d'autre. J'attends toujours. Pas dans ce
cadre. Vas-y.
Alors justement, est-ce un hasard si c'est parce que le désir s'éprouve, enfin existe dans un ensemble ou dans un agencement, que l'anti-Édipe où tu parles du désir, où tu commences à parler du désir, est le premier livre que tu écrives avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec Félix Guattari?
Oui. Non, tu as tout à fait raison. C'est en nous qu'il fallait que... On entre dans cet agencement nouveau pour nous, écrire à deux, que chacun de nous deux n'interprétait pas, ne vivait pas de la même façon, pour que quelque chose passe. C'est-à-dire, et ce quelque chose qui passait, c'était finalement une hostilité, une réaction contre les conceptions dominantes du désir, les conceptions psychanalytiques, quoi. Il fallait être deux, il fallait Félix dans la psychanalyse, moi m'intéressant à ces sujets, il fallait tout ça pour qu'on se dise qu'il y avait lieu de faire une conception constructive, constructiviste du désir. Oui. Oui.
Et est-ce que tu pourrais mieux, comme ça, définir assez rapidement, succinctement, comment tu vois la différence entre justement ce constructivisme et l'interprétation analytique? Bon, on voit bien, mais est-ce qu'il y a des...
Oh, c'est tout simple. Moi, je crois que c'est tout simple. Je veux dire, notre position à la psychanalyse, elle est multiple. Mais quant au problème du désir, c'est que réellement, les psychanalystes, ils parlent du désir exactement comme les prêtres en parlent, ça. C'est pas le seul rapprochement, c'est des prêtres, les psychanalystes. Ils en parlent sous quelle forme? Ils en parlent sous la forme d'une grande plainte de la castration. Quoi. Castration, c'est pire que le péché originel, la castration. C'est une espèce de malédiction sur le désir qui est proprement effarante. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, nous, dans l'anti-Édipe? Moi, je crois qu'il y a trois points. Il y a trois points qui s'opposent directement à la psychanalyse. Ces trois points, c'est... Et là, pour mon compte, et je crois Félix non plus, Félix Guattari non plus, on n'a absolument rien à changer à ces trois points. C'est que... On est persuadé, ou on croit en tout cas, que l'inconscient n'est pas un théâtre. C'est pas un endroit où il y a Édipe et Hamlet qui jouent éternellement leur scène. C'est pas un théâtre, c'est une usine, c'est de la production. L'inconscient, il produit. Il produit, ça, c'est pas produit. Donc, ça marche comme une usine. C'est le contraire même de la vision psychanalytique de l'inconscient comme théâtre, où s'agit toujours à Hamlet, ou à Édipe, à l'infini. Notre deuxième thème, c'est que le délire, qui est très lié au désir, le désir, c'est délirer d'une certaine manière, mais si vous regardez un délire quel qu'il soit, si vous regardez de près, si vous entendez un délire quel qu'il soit, il n'a rien à voir sur la psychanalyse, on a retenu, c'est-à-dire on ne délire pas sur son père et sa mère, et on délire sur tout à fait autre chose, et c'est là qu'est le secret du délire, on délire sur le monde entier. C'est-à-dire on délire sur l'histoire, la géographie, les tribus, les déserts, les peuples,
le climat,
les races, les climats. C'est là-dessus qu'on délire. Le mot du délire, c'est je suis une bête, un nègre, c'est où sont mes tribus, comment disposer mes tribus, survivre dans le désert, etc. Le désert et le délire est géographico-politique. Et la psychanalyse, chaque fois, elle ramène ça à des déterminations familiales. Donc, je peux dire, là, je me sens, même après tant d'années de distance, après l'anti-Édipe, je dis, la psychanalyse n'a jamais rien compris à un phénomène de délire. On délire le monde, on délire pas sa petite famille. C'est pour ça que tout ça, ça se recoupe. Quand je disais la littérature, c'est pas la petite enfer privée de quelqu'un. Ça revient au même, le délire aussi, c'est pas un délire sur le père et la mère. Et puis le troisième point, c'est que ça revient à ça, le désir. C'est que le désir, il s'établit toujours, il construit des agencements, il s'établit dans un agencement. Il met toujours en jeu plusieurs facteurs. Et la psychanalyse ne cesse de nous ramener à un seul facteur, et toujours le même. Tantôt le père, tantôt la mère, tantôt je ne sais pas quel, tantôt le phallus, etc. Elle a tout ignorant de ce qui est multiple, elle a tout ignorant du constructivisme, c'est-à-dire des agencements. Je vois des exemples. On parlait de l'animal tout à l'heure. Pour la psychanalyse, l'animal, bon, c'est une image de père, mettons. Un cheval, c'est une image de père. C'est faute du monde. Je pense à l'exemple du petit Hans. Le petit Hans, c'est un enfant sur lequel Freud donne son avis. Il assiste à un cheval dans la rue qui tombe. Et le chartier qui lui donne des coups de fouet. Et le cheval qui rue, qui donne des coups de pied partout. Bon, avant la voiture, avant l'automobile, c'était un spectacle courant dans les rues. Ça devait être quelque chose pour un gosse. La première fois qu'un gosse voyait un cheval qui tombait dans la rue et qu'un cocher à moitié ivre essayait de relever un coup de fouet, mais ça devait être une émotion. C'était l'arrivée de la rue, c'était l'arrivée dans la rue, c'était l'événement de la rue, quoi, un événement sanglant parfois, tout ça. Et puis on entend les psychanalystes parler, enfin, images de père, etc. Mais c'est dans leur tête que ça va pas. Le désir, alors, que le désir a été concerné par. Un cheval tombe et est battu dans la rue, un cheval meurt dans la rue, etc. Mais c'est un agencement fantastique pour un gosse, c'est troublant jusqu'au fond. Voilà. Autre exemple, je peux dire donc, là, autre exemple, on parlait de l'animal. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un animal? Mais il n'y a pas un animal qui serait une image de père. Les animaux, généralement, ça va par meute. C'est des meutes. Il y a un cas, moi, qui me réjouit beaucoup, c'est un texte que j'adore, c'est Jung, celui qui a rompu avec Freud après une longue collaboration. Jung, il raconte à Freud qu'il a fait un rêve d'Osmer. Il a rêvé d'un Osmer. Et Freud ne comprend rien à la lettre. Il lui dit tout le temps, si vous avez rêvé d'un os, c'est la mort de quelqu'un. Je veux dire la mort de quelqu'un. Et vraiment, Jung ne cesse de lui dire, je ne vous parle pas d'un os, j'ai rêvé d'un ossuaire, un ossuaire. Freud ne comprend pas. Il ne voit pas la différence entre un ossuaire et un os. C'est-à-dire un ossuaire, c'est 100 os, c'est 1000 os, c'est 10 000 os. Ça, c'est une multiplicité, ça, c'est un agencement, ça, c'est... etc. Je me promène dans un ossuaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Par où le désir passe? Dans un agencement, c'est toujours un collectif. Collectif, constructivisme, etc. C'est ça le désir. Hein. Alors, où passe mon désir là, parmi ces 1000 crânes, ces 1000 os? Où passe mon désir dans la meute? Quelle est ma position dans la meute? Est-ce que je suis extérieur à la meute, à côté de la meute, dans la meute, au centre de la meute? Tout ça, c'est l'effet grand, c'est ça le désir.
Et cet agencement collectif, justement, comme l'Antiédipe est un livre qui a été écrit en 72, c'était, cet agencement collectif arrivait à point nommé après 68, c'est-à-dire que c'était toute une réflexion de ces années-là et contre la psychanalyse qui continuait son affaire de type...
Et rien ne fait que dire, le délire, les races et les tribus, y délire les peuples, y délire l'histoire et la géographie, me paraît avoir été tout à fait conforme à suite. C'est-à-dire avoir là apporté, il me semble, un peu d'air sain dans tout cet air renfermé et malsain des délires pseudo-familiaux. Les gens, là, on l'a bien vu que c'était ça le délire. Ouais, si je me mets à délirer, ben, c'est pas pour délirer sur mon enfance, là aussi, sur ma petite affaire privée. On délire, le délire est cosmique. On délire sur la fin du monde, on délire sur les particules, sur les électrons, mais pas sur papa-maman, évidemment.
Gilles Deleuze, bobine 9.
Jean, tu me sens un tout petit peu. Là. Quand tu me plais.
Alors justement, à propos de cet agencement collectif du désir, je pense à certains contresens. Moi, je me rappelle qu'à Vincennes, dans les années 72, à la faculté, il y avait des gens qui mettaient en pratique ce désir et ça donnait plutôt lieu à des amours collectifs. Enfin, ils n'avaient pas très bien compris. Alors moi, je voudrais, ou encore plus précisément, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même de fous à Vincennes, quand vous partiez d'une schizoanalyse pour combattre la psychanalyse, tout le monde pensait que c'était assez bien d'être fou, d'être schizo. Alors on voyait des numéros invraisemblables parmi les étudiants. Alors moi je voudrais que tu me racontes comme ça quelques histoires drôles ou moins drôles de ces contresens à propos du désir.
Ben les contresens, je pourrais plutôt les dire abstraitement, les contresens ils tenaient en deux choses. Il y avait deux cas, ça revient d'ailleurs au même. Il y avait ceux qui pensaient que le désir c'était le spontanéisme. À ce moment-là, il y avait toutes sortes de mouvements spontanés, de spontanéisme. Et puis les autres qui pensaient que le désir, c'était la fête. Alors pour nous, c'était ni l'un ni l'autre, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que, de toute manière, il y avait des agencements qui se faisaient, il y avait des trucs qui... Même les fous, il y en avait tellement de toutes sortes. Ça faisait partie de ce qui se passait à ce moment-là à Vincennes. Mais les fous, ils avaient leur discipline, hein, ils avaient leur manière, ils faisaient leurs discours, ils faisaient leurs interventions. Eux aussi, ils entraient dans un agencement. Ils avaient leur agencement, mais ils entraient très bien dans un agencement. Il y avait une espèce de ruse, de compréhension, de grande bienveillance, les fous, tout ça. Mais au niveau de la théorie, pratiquement, c'était des séries d'agencements qui se faisaient et se défaisaient. Théoriquement, le contresens, c'était se dire, ah ben oui, le désir, c'est la spontanéité, si bien qu'on était appelés les spontanéistes, ou bien c'est la fête. Mais c'était pas ça. La philosophie dite du désir, ça consistait uniquement à dire aux gens, mais allez pas vous faire psychanalyser, n'interprétez jamais, expérimentez des agences, cherchez les agencements qui vous conviennent. Que chacun cherche. Alors qu'est-ce que c'était un agencement? Moi je dirais un agencement pour moi. Et Félix, c'est pas qu'il pensait autre chose, parce que c'était peut-être, mais à cet égard, je sais pas pour moi. Je maintiendrai qu'il y avait quatre composantes d'agencement. Si on veut, je serais, enfin, en très gros, hein, car je ne tiens pas à quatre, plutôt que six. Hein. Mais à l'agencement, ça renvoyait à des états de choses. Que chacun trouve les états de choses qui lui conviennent un peu. Alors, tout à l'heure, pour boire, bon, j'aime tel café, j'aime pas tel café, les gens qui sont dans tel café, etc. Ça, c'est un état de choses. Aux dimensions de l'agencement, des énoncés. Des types d'énoncés, et chacun a son style. Il a une certaine manière de parler. Alors là, c'est à cheval. Dans le café, par exemple, il y a les copains, et puis il y a une certaine manière de parler avec les copains. C'est pas, chaque café a son style. Bon, je dis café, mais ça vaut aussi pour toute autre chose. Donc, un agencement comporte des états de choses et des énoncés, des styles d'énonciation. On parle pas de la... c'est très intéressant. L'histoire, elle est faite de ça. Quand est-ce qu'apparaît tel nouveau type d'énoncé? Par exemple, dans la Révolution russe, les énoncés de type léniniste, quand est-ce qu'ils apparaissent, comment, sous quelle forme? En 68, quand est-ce que sont apparus les premiers énoncés dits de 68? C'est très très complexe. Enfin, tout agencement implique des styles d'énonciation. Et puis ça implique des territoires. Chacun son territoire, il y a des territoires. Même quand on est dans une pièce, on choisit son territoire. Genre dans une pièce que je ne connais pas, je cherche le territoire, c'est-à-dire l'endroit où je me sentirais le mieux dans la pièce. Et puis il y a des processus, il faut bien appeler de déterritorialisation, c'est-à-dire la manière dont on sort du territoire. Dans le genre. Je dirais qu'un agencement comporte ces quatre dimensions. Des états de choses, des énonciations, des territoires, des mouvements de déterritorialisation. Et c'est là-dedans que le désir coule. Alors,
en fait, ils ne sont pas particulièrement responsables des gens qui auraient pris de la drogue, qui auraient... en lisant trop, pas la lettre, l'antiédite, parce que ça, c'est pas un problème, je veux dire, c'est pas comme Caton qui incite toujours la jeunesse à faire des conneries.
On se sent toujours responsable.
Mais qu'est-ce que ça a été, les effets de l'antiédite?
Moi, j'ai toujours essayé que ça tourne bien. En tout cas, j'ai jamais, je crois, c'est mon honneur, j'ai jamais fait le malin avec ces choses-là. J'ai jamais dit à un étudiant, allez, drogue, toi, t'as raison. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour que il se tire d'affaire, parce que je suis trop sensible à la minuscule chose qui fait tout d'un coup que quelqu'un bascule en état de langue, qui boive très bien. Mais à la fois, j'ai jamais pu donner tort aux gens, quoi qu'il fasse, j'ai pas le goût de leur donner tort. Mais je trouve qu'il faut veiller énormément au point où ça ne peut plus aller. Qui boivent, qui se droguent, qui fassent ce qu'ils veulent. On n'est pas des flics, c'est-à-dire on n'est pas ni des pères. Moi, je ne suis pas censé les empêcher. Mais tout faire pour qu'ils ne tournent pas en état de loque, ça. Alors, au moment où il y a un risque, ça je supporte pas. Je supporte très bien quelqu'un qui se drogue, mais quelqu'un qui se drogue de telle manière, qui se drogue seul, encore, je ne sais pas, à la sauvage, de telle façon que je me dis, ça y est, il va craquer. Je ne supporte pas, surtout le cas d'un type jeune, tu parles de Jean-Jacques, je ne supporte pas un homme jeune qui craque. C'est pas supportable, ça. Un vieux qui craque, qui suicide, bon, il a eu sa vie. Mais quelqu'un de jeune qui craque par connerie, par imprudence, de 6 mois de trop, parce que, etc. Alors, moi, j'ai toujours été partagé entre l'impossibilité de donner tort à quelqu'un et le désir absolu, le refus absolu, qu'il tourne à l'état de loque. Ben là aussi, c'est un mince défilé, tu sais. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il y a des principes, on s'en tire comme on peut. On essaie, c'est vrai que le rôle des gens à ce moment-là, c'est d'essayer de sauver les petits gars, autant qu'on peut. Et les sauver, ça ne veut pas dire leur faire prendre le droit chemin, ça veut dire les empêcher de devenir des loques. C'est tout ce que je vous propose.
Non, mais c'était sur les effets de l'anti-Oedipe, parce qu'il y en a eu.
C'est ça. Ça a été empêché. Empêché qu'il tourne l'encre. Que à ce moment-là, qu'un type qui développait enfin un grand début de schizophrénie, soit mis dans de bonnes conditions, qu'on le foute pas dans un hôpital répressif, tout ça. Ou bien que quelqu'un qui supportait plus un alcoolique, où ça tournait mal, tout faire pour qu'il arrête.
Parce que c'était quand même un livre révolutionnaire dans la mesure où il semblait pour les ennemis de ce livre et les psychanalystes comme une apologie de la permissivité et de dire que tout était désir.
Ce livre n'a jamais, c'est-à-dire quand on lit ce livre a toujours marqué une prudence, il me semble extrême. Ne devenez pas, la leçon c'était, ne devenez pas des langues. Quand on imposait, on ne cesse pas d'opposer le processus schizophrénique au type d'hôpital. Et pour nous, la terreur, c'était de produire une créature d'hôpital. Tout n'est pas ça. Et je dirais presque, vanter l'espèce de valeur du voyage, de ce qu'on appelait, de ce qu'à ce moment-là, les antipsychiatres appelaient le voyage ou le processus schizophrénique, c'était une manière d'éviter, de conjurer la production des loques d'hôpital, c'est-à-dire la production des schizophrènes. La fabrication de ce qui t'offrait, ouais.
Et est-ce que tu crois, pour en finir avec l'anti-Oedipe, que ce livre, il a encore des effets maintenant?
Oui, parce que c'est un bon livre. Oui, mais c'est un bon livre, parce qu'il y a une conception de l'inconscient, à mon avis. C'est le seul cas où il y a eu une conception de l'inconscient de ce type. Je dis sur les deux points, ou les trois points. Les multiplicités de l'inconscient, le délire comme délire monde, et pas délire famille. Le délire cosmique, là, le délire des races, le délire des tribus, ça c'est bon. Et l'inconscient comme machine, comme usine et pas comme théâtre. Moi, je n'ai rien à changer de ces trois points. Et à mon avis, il reste absolument nouveau parce que toute la psychanalyse s'est reconstituée. Pour moi, j'espère que c'est un livre qu'on redécouvrira. Peut-être, je vous prie pour qu'on le redécouvre.
Bobine 10. 10.
C'est comme culture.
Ouais, pourquoi pas.
Alors voilà, t'es quelqu'un qui te dit pas cultivé. C'est-à-dire que tu dis que tu lis, tu ne vois les films, ou tu regardes les choses que pour un savoir précis, celui dont tu as besoin pour un travail défini, précis, qui est celui que tu es en train de faire. Mais en même temps, t'es une personne qui... tous les samedis, va à une exposition, va voir un film du grand domaine culturel. On a l'impression qu'il y a une pratique, une espèce d'effort vers la culture, que tu systématises et que tu as une pratique culturelle. C'est-à-dire que tu sors, tu fais un effort, tu tends à te cultiver. Et pourtant, je répète, tu dis que tu n'es pas du tout cultivé. Alors, Comment tu expliques ce petit paradoxe? Tu n'es pas cultivé?
Non, ce que je veux dire quand je dis en effet, quand je te dis à toi, quand je ne m'invite pas, vraiment, je ne m'invite pas du tout comme un intellectuel. Et je ne me vis pas comme quelqu'un de cultivé pour une raison simple, c'est que quand je vois quelqu'un de cultivé, je suis effaré. Je ne suis pas tellement admiratif, je suis admiratif à certains égards, à d'autres pas du tout, mais je suis effaré, quelqu'un de cultivé. Ça se remarque quand même, quelqu'un de cultivé. C'est un savoir, mais un savoir effarant surtout. Quelqu'un de cultivé, on voit que ça, c'est, enfin on en voit beaucoup chez les intellectuels, mais ils savent tout. Enfin, ils savent tout, je sais pas. Ils sont au courant de tout. Ils savent l'histoire de l'Italie à leur naissance. Ils savent la géographie du pôle Nord. Ils savent, on fait toute la liste. Ils savent tout, ils peuvent parler de tout. Ils peuvent, c'est abominable. Quand je dis que je suis dit cultivé, dit un intellectuel, je veux dire une chose très facile, c'est que je n'ai aucun savoir de réserve. Aucun savoir, au moins là, j'aurais pas de problème. À ma mort, il n'y aura pas à chercher ce que j'ai à publier. Rien. Rien, mais c'est, j'ai aucune réserve. J'ai rien. J'ai aucune provision. J'ai aucun savoir provisionnel. Et tout ce que j'apprends, je l'apprends pour telle tâche. Et la tâche faite, je l'oublie, si bien que 6-10 ans après, je suis forcé, alors ça me donne beaucoup de joie. Il suffit forcément de me remettre dans quelque chose de voisin ou dans le même sujet, je dois recommencer à zéro. C'est, sauf quelques cas très rares, parce que Spinoza est dans mon cœur, alors lui je n'oublie pas, c'est mon cœur, c'est pas ma tête. Pourquoi j'admire pas ça, pas cette culture différente? C'est les gens qui parlent.
C'est de l'érudition ou c'est une opinion sur tous les sujets?
Non, c'est pas de l'érudition. Ils savent en parler. Ils ont d'abord voyagé. Ils ont voyagé dans l'histoire, dans la géographie. Ils savent, ils peuvent parler de tout. Moi, j'ai entendu à la télé, c'est effarant, j'ai entendu des dons. Alors, comme je suis plein d'admiration, je peux même dire. Des gens comme Eco, Umberto Eco, c'est prodigieux. Moi, qu'on lui dise, bon, ben, ça y est, c'est comme si on appuyait sur un truc. Et il le sait en plus, c'est pas du tout. Alors, je peux pas dire que j'envie ça. Je suis effaré, mais j'envie pas ça du tout. C'est d'une certaine manière, je dis la culture, c'est quoi? C'est qu'on s'y pourquoi parler. Je peux pas m'empêcher, surtout maintenant que je fais plus de cours, que je suis à la retraite. Parler, je me dis de plus en plus parler, c'est un peu ça. C'est un peu ça. L'écriture, c'est propre. Écrire, c'est propre, mais parler, c'est ça. C'est ça, parce que c'est faire du charme. C'est faire du charme. Moi, j'ai jamais supporté l'école Locke. Depuis, j'ai été à l'école Locke quand j'étais tout jeune. Jamais pu supporter l'école Locke. Je voyage pas. Pourquoi je voyage pas? Parce que les intellectuels, moi, je voyagerais bien si... enfin, non, d'ailleurs, je voyagerais pas. Ma santé me l'interdit. Mais les voyages des intellectuels, c'est la bouffonnerie. Ils voyagent pas, ils se déplacent pour parler. Alors, ils partent d'un endroit où ils parlent pour aller à un autre endroit où ils vont parler. Et puis, même à déjeuner, ils vont parler avec les intellectuels de l'endroit. Ils ne vont pas arrêter de parler. Je supporte pas parler. Je supporte pas. Alors, comme à mon avis, il me semble que la culture est quand même très liée à la parole. En ce sens, alors je hais la culture, je ne peux pas la supporter.
Mais ça, on y reviendra à la séparation, l'écriture propre et la parole sale, parce que quand même, tu as été un très grand professeur. Et la séparation.
C'est différent.
Mais ça, on y reviendra, puisqu'il y a une lettre P qui est liée à ton travail de professeur. Et ça, on aura l'occasion de reparler de la séduction.
Gilles Deleuze, Bobine 5.
Alors moi, je voudrais revenir quand même à cette chose que tu as un peu éludée, qui est cet effort, cette discipline que tu t'imposes, même si tu n'en as pas besoin, en fait, de voir, je sais pas, admettons dans les 15 derniers jours, l'exposition de Polk au Musée d'Art Moderne. Tu vas quand même assez souvent, pour pas dire hebdomadairement, voir un grand film ou voir une exposition de peinture. Alors, T'es pas érudit, t'es pas cultivé, t'as aucune admiration pour les gens cultivés comme tu viens de dire. Alors, à quoi ça correspond cette pratique, cet effort? C'est du plaisir?
Je pense, non. Oui, bien sûr, c'est du plaisir. Enfin, c'est pas toujours du plaisir. Mais je pense à l'investissement d'un être aux aguets. Mais je crois pas à la culture, certaines manières, mais ce que je crois, c'est aux rencontres. Et les rencontres, ça se fait pas avec des gens. Les gens, ils croient toujours que c'est avec des gens que ça se fait, les rencontres, si bien que c'est terrible. Là, ça fait partie de la culture, les intellectuels qui se rencontrent entre eux, cette saleté de colloque, tout ça, toutes ces... Enfin, c'est infamie. Mais les rencontres, ça se fait pas avec les gens, ça se fait avec des choses. Ça se fait avec des hommes, je rencontre un tableau, oui, ça, je rencontre un air de musique, je rencontre une musique, ça, oui, je comprends ce que ça veut dire, une rencontre. Quand les gens, ils veulent les joindre, en plus, une rencontre avec eux-mêmes, avec les gens, là, ça ne va plus du tout. C'est pas de la rencontre, ça. C'est pour ça que les rencontres sont tellement, tellement décevantes. C'est toujours des catastrophes, les rencontres avec les gens. Mais moi, comme tu dis, quand je vais le samedi et le dimanche au cinéma, etc., je suis pas sûr de faire une rencontre, mais je pars un peu, je suis aux aguets. Mais s'il n'y a pas à bâtir un rencontre, un tableau, un film, alors c'est formidable, je prends l'exemple, parce que pour moi, dès qu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir, il s'agit à la fois d'y rester et d'en sortir. Alors, rester dans la philosophie, c'est aussi comment sortir de la philosophie. Mais sortir de la philosophie, ça ne veut pas dire faire autre chose. C'est pour ça qu'il faut sortir en restant dedans. C'est pas faire autre chose, c'est pas faire un roman. D'abord, j'en serais incapable, mais même j'en serais capable, je crois que ça ne me dirait absolument rien. Moi, je veux sortir de la philosophie par la philosophie. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça.
C'est-à-dire?
Ben, je prends l'exemple, là, comme tout ça c'est après ma mort, je peux être sans modestie. Je viens de faire un livre sur un grand philosophe qui s'appelle Leibniz, et en insistant sur une notion bon, qui me paraît importante chez lui, mais qui est très importante pour moi, qui est le pli, la notion de pli. J'estime avoir fait un livre de philosophie bon, sur cette notion un peu bizarre de pli. Qu'est-ce qui m'arrive là-dessus? Je reçois des lettres, comme toujours, mais des lettres, bon. Il y a des lettres insignifiantes, même si elles sont charmantes et chaleureuses et qu'elles me touchent beaucoup. Ben, c'est des lettres qui disent, bon, vous avez fait très bien, c'est des lettres d'intellectuels qui ont aimé ou pas aimé ce livre. Et puis je reçois deux lettres, ou à la lettre, deux sortes de lettres, où je me frappe les yeux. Il y a des lettres de gens qui me disent, mais votre histoire de pli, c'est nous. C'est nous. Et je m'aperçois que c'est des gens qui font partie d'une association qui groupe 400 personnes en France actuellement, ils vont peut-être augmenter. C'est l'association des plieurs de papier. Et ils ont une revue, m'envoient la revue et me disent, mais on est complètement d'accord. Ce que vous faites, c'est aussi ce qu'on fait, nous. Bien, je me dis, ça j'ai gagné. Là-dessus, je reçois une autre sorte de lettre. Et ils parlent exactement de la même manière. Et ils disent, le pli, c'est nous. Mais c'est une telle merveille. D'abord, ça me fait penser à Platon. Parce que dans Platon, là, les philosophes, pour moi, c'est pas du tout des gens abstraits. C'est des grands écrivains et des grands auteurs très, très concrets. Chez Platon, il y a une histoire qui me met dans la joie, c'est que, et qui est sans doute liée au début de la philosophie, ça, on reviendra peut-être là-dessus. Le thème de Platon, c'est, il donne une définition. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un politique? Le politique, c'est le pasteur des hommes. Et là-dessus, il y a plein de gens qui arrivent en disant, ben, vous voyez bien, le politique, c'est nous. Par exemple, le berger arrive en disant, eh ben, moi, j'habille les hommes, je suis donc le vrai pasteur des hommes. Le boucher arrive, dit, moi je nourris les hommes, c'est moi le pasteur des hommes. Les rivaux arrivent. Hein. Mais ben, j'ai fait un peu cette expérience. C'est, voilà, les plieurs de papier qui arrivent en disant, le pli c'est doux. Les autres dont je parlais, là, qui m'envoient exactement le même type de lettres, c'est épatant, c'est les surfeurs. À première vue, aucun rapport avec les plieurs de papier. Les surfeurs, ils disent, mais on est complètement d'accord, donc, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne cesse pas de s'insinuer dans les plis de la nature. Le pli, pour nous, la nature, c'est un ensemble de plis mobiles. Alors, on s'insinue dans le pli de la vague. Habiter le pli de la vague, c'est ça notre tâche. Habiter le pli de la vague, et en effet, ils en parlent admirablement, c'est des gens tout à fait... ils pensent, ils ne se contentent pas de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. On en reparlera aussi peut-être avec, si on arrive au sport, un jour à S, on en reparlera. Mais
ça, on était parti de la rencontre, c'est des rencontres.
Alors ça, c'est des rencontres. Alors, ça, quand je dis sortir de la philosophie par la philosophie, je dis, ça m'est à mon avis tout le temps arrivé, parce que c'est des rencontres. J'ai rencontré les plieurs de papier, j'ai pas besoin de les voir d'ailleurs. On serait déçus, sans doute je serais déçus, et eux seraient encore plus déçus. Pas besoin de les voir, mais j'ai fait une rencontre avec le surf, avec les plieurs de papier. Alors là, je suis sorti de la philosophie par la philosophie. C'est ça une rencontre. Or, je pense que les rencontres, quand je vais voir une exposition, c'est-à-dire, je suis quoi, aux aguets, à l'archère d'un tableau qui me touche, d'un tableau qui m'émeut. Quand je vais au cinéma, je ne vais pas au théâtre, parce que le théâtre, c'est trop long, c'est trop discipliné, c'est trop, et puis ça ne m'apparaît pas un art tellement, sauf dans certains cas, sauf Bob Wilson et Carmelo Bene. Je n'ai pas le sentiment que le théâtre soit très, très emporté sur notre époque, mais sauf ces cas extrêmes. Mais rester 4 heures assis sur un mauvais fauteuil, je ne peux plus, d'abord pour des raisons de santé, donc ça liquide le théâtre, ça pour moi. Mais oui, c'est une exposition de peinture au cinéma, mais j'ai toujours l'impression que, au mieux, je risque de faire la rencontre avec une idée.
Oui, mais il n'y a aucune... Enfin, le film par distraction,
et
ça n'existe
pas.
Ce
n'est
pas de la culture, mais il n'y a pas de distraction. C'est-à-dire que
ma distraction,
tout est inscrit dans un travail.
C'est la culture. Non, ce n'est pas un travail. Je veux dire, c'est des aguets. Je suis aux aguets de quelque chose qui passe en me disant, tiens, est-ce que ça me trouble? Ça m'abuse beaucoup, c'est très abusant.
Oui. C'est pas Eddie Murphy qui va te troubler.
C'est pas...
Eddie Murphy, c'est un comique américain dont les derniers films sont des véritables succès publics. Tu vas voir jamais... Non, tu regardes que Benny Hill à la télévision.
Oui, bah Benny Hill, ça m'intéresse. Ouais, oui, ça m'intéresse. Je ne dis pas forcément des choses sûrement très bonnes, nouvelles. Ça a des raisons de m'intéresser.
Mais quand tu sors, c'est pour une rencontre.
Quand je sors, ah ben, s'il n'y a pas d'idée à en tirer, si je ne dis pas, ah ben il avait une idée. Qu'est-ce que c'est les grands cinéastes? Mais ça vaut aussi pour les cinéastes. Moi, ce qui me frappe dans la beauté, par exemple, je prends un grand comme Pidali ou comme Lozé. Mais qu'est-ce qui me touche là-dedans, sinon ils sont poursuivis par des idées, une idée.
Ah mais ça, tu es en train de brûler mon nuit. Arrête tout de suite.
On arrête là-dessus. Mais c'est ça qui me semble être une rencontre. On fait des rencontres avec les choses avant d'en faire avec les gens.
Et en ce moment, tu en fais beaucoup de rencontres pour parler d'une période culturelle précise, qui est celle du moment.
Ah bah oui, je viens de le dire, les plieurs et les surfeurs, qu'est-ce que tu veux de plus beau? Mais ça, c'est pas des rencontres avec des intellectuels. Tu vois, je fais pas de rencontres avec des intellectuels pour d'autres raisons que je l'aime et que je fais une rencontre avec lui. C'est pour ce qu'il fait, son travail actuel, son charme, tout ça. On va contrairement là avec le charme des gens, avec le travail des gens, mais pas avec les gens, on n'a rien à en foutre des gens. Pas rien du tout.
En plus, ils peuvent frotter comme les chats.
Oui, il y en a sinon que le frôlement et l'aboiement. Terrible.
Alors on reprend sur les périodes riches et les périodes pauvres de la culture.
Ouais.
Et en ce moment, tu trouves que c'est une période pas tellement riche. Enfin, je te vois très souvent t'agacer devant la télévision, devant les émissions littéraires que nous ne citerons pas, bien que au moment où ça sera diffusé, les noms seront différents. Est-ce que tu trouves que c'est une période riche ou une période particulièrement pauvre, celle que nous vivons?
Oui, c'est pauvre. C'est pauvre, mais en même temps, c'est pas du tout angoissant. Oui, ça me fait rire, parce que... je me dis, à mon âge, hein, je me dis, ben, c'est pas la première fois qu'il y a des périodes pauvres, quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu depuis que j'ai un âge de m'enthousiasmer un peu, hein. J'ai vécu la libération, ça, bon, ben, la libération, c'était la période, une des périodes les plus riches qu'on puisse imaginer. On découvrait ou on redécouvrait. La libération, il y avait eu la guerre, etc. C'était pas rien, c'était pas de la tarte. Hein. On découvrait tout, le roman américain, Kafka, il y avait l'espèce de monde de la découverte, il y avait Sartre, il y avait... On peut pas imaginer ce qu'a été, je dirais, intellectuellement, ce qu'on découvrait ou redécouvrait en peinture, etc. Il faut comprendre des trucs comme la grande polémique, faut-il brûler Kafka, tout ça, c'est inimaginable, et ça paraît un peu enfantin aujourd'hui, mais c'était vraiment une atmosphère créatrice, c'était une atmosphère très très forte. Et puis j'ai connu avant 68, qui a été une période extrêmement riche jusqu'à un peu après 68. Alors qu'entre-temps, il y a des périodes pauvres, des périodes pauvres. Oh, c'est très normal. C'est pas le fait de la pauvreté qui est gênant, c'est l'insolence ou l'impudence de ceux qui occupent les périodes pauvres. Ils sont beaucoup plus méchants que les gens géniaux qui s'animent dans les périodes riches.
Au bon enfant, parce que moi, l'autre jour, je voyais justement, on parle de la polémique Kafka, la libération, je voyais Alexandre Machin, qui était très très content de dire qu'il n'avait jamais lu Kafka, et il le disait tout à fait en riant.
Bien sûr, ils sont très contents, plus qu'ils sont bêtes, plus qu'ils sont contents. C'est ceux qui considèrent que là aussi, on en revient à ça, que la littérature, c'est une petite affaire privée. Si on considère ça, bon, il n'y a pas besoin de lire Kafka, il n'y a pas besoin de lire grand-chose, puisque si on a un joli bras de plume, ben on est par nature l'égal de Kafka. Comme c'est pas du travail, ils font pas du travail. Je veux dire, comment t'expliquer? Pour prendre des choses plus sérieuses que ces jolis sauts. J'ai été voir il n'y a pas longtemps au Cosmos un film. Non, ça va, j'adore, c'était admirable. C'est un film très émouvant d'un russe qui a pas été. Qui a fait son film il y a 30 ans et puis il vient de passer seulement. La commissaire. Là, j'ai saisi quelque chose qui m'a paru extrêmement émouvant. Hein. C'est que ce film était très très bien. Très bien, très bien. On peut pas mieux. Parfait. Mais on se disait avec terreur ou avec une espèce de compassion que. C'était un film comme les Russes en faisaient avant-guerre.
Du temps d'Eisenstein,
de Dovchenko, que c'était. Tout y était. Le montage parallèle, notamment. Le montage parallèle sublime, etc. C'est comme si rien ne s'était passé depuis la guerre. Comme si rien ne s'était passé dans le cinéma. Et je me disais, c'est forcé. Le film est bon, voilà, mais... Il faisait très étrange, c'était à cause de ça. S'il n'était pas très bon, c'était à cause de ça. C'est à la lettre quelqu'un qui avait été tellement seul dans son travail que il filmait comme on filmait il y a 20 ans plus tôt. C'est pas que c'était mal, mais justement, c'était très bien et c'était prodigieux il y a 20 ans. Et tout ce qui s'était passé depuis, il ne l'avait pas su. Je veux dire, il avait grandi dans un désert. C'est terrible, traverser un désert, c'est pas grand-chose. Moi, traverser un désert, c'est pas grave. Traverser une période de désert. Ce qui est terrible, c'est naître dedans. C'est grandir dans un désert. Ça c'est affreux. Je suppose, parce qu'on doit avoir une impression de solitude.
Pour les gens qui ont 18 ans maintenant, par exemple.
Ah oui, surtout que tu comprends que quand les choses, c'est ça l'embêtant dans les périodes. Quand les choses disparaissent, personne ne s'en aperçoit. Pour une raison simple, c'est que quand quelque chose disparaît, ça ne manque pas. La période stalinienne a fait disparaître la littérature russe. Mais les Russes s'en sont pas aperçus. Je veux dire, le gros des Russes, l'ensemble des Russes se sont pas aperçus. Une littérature qui a été une littérature bouleversante dans tout le 19e siècle disparaît. J'entends bien, non, on nous dit maintenant, il y a les dissidents, etc. Mais au niveau du peuple, d'un peuple russe, sa littérature a disparu. Sa peinture a disparu et personne s'en est aperçu. Aujourd'hui, pour se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui, mettons, il y a évidemment des nouveaux jeunes gens qui sûrement ont du génie. Je pense, supposons, c'est une mauvaise expression, mais supposons les nouveaux Beckett. Les nouveaux Beckett d'aujourd'hui.
J'ai cru qu'il allait dire les nouveaux philosophes.
Il ne s'agit pas de ça. Mais les nouveaux Beckett aujourd'hui, supposons qu'on ne les publie pas. Après tout, Beckett a bien failli pas être publié. C'est évident que rien ne manquerait. Par définition, un grand auteur ou un génie, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Si ce nouveau n'apparaît pas, ça gêne personne, ça manque à personne, puisqu'on n'en avait aucune idée. Si Kafka n'avait pas été publié, on ne peut pas dire que Kafka manquerait. Si l'autre avait brûlé tout Kafka, personne ne pourrait dire « Ah, comme ça nous manque », puisqu'on n'aurait aucune idée de ce qui a disparu. Si les nouveaux Beckett aujourd'hui sont eus ou sont empêchés d'être publiés par le système actuel de l'édition, on ne pourra pas dire « Oh, comme ça nous manque !» Si on se faisait... J'ai entendu une déclaration, j'ai entendu, je crois dans ma vie, la plus impudente qui soit, j'ose pas dire à qui on la prêtait dans un journal, surtout que je ne suis jamais sûr de ces trucs-là, c'est quelqu'un mêlé à l'édition qui osait dire « Oh, mais vous savez, aujourd'hui, on ne risque plus de faire des erreurs comme Gallimard, refusant Proust, car avec les moyens qu'on a aujourd'hui... »
Chercheurs de tête, des chasseurs de tête.
On rêve, on connaît, mais les moyens qu'on a aujourd'hui pour trouver les nouveaux Proust et les nouveaux Beckett. Autant dire qu'on aurait un compteur Gégère et que le nouveau Beckett, c'est-à-dire quelqu'un de parfaitement inimaginable, puisqu'on ne sait pas ce qu'il nous apporte de nouveau, il rendrait un son si on le...
Passer sur sa tête.
Si on lui faisait passer le machin. Alors qu'est-ce qui définit la crise aujourd'hui? C'est toutes ces conneries, quoi. La crise aujourd'hui, moi, je la vois liée à trois choses. Mais elle durera pas, je suis très très optimiste. C'est ça qui définit une période de désert. C'est d'abord que les journalistes ont conquis la forme livre. Les journalistes ont toujours écrit, moi je trouve très bien que les journalistes écrivent. Mais pendant longtemps, quand les journalistes se sont mis à faire un livre, ils ont estimé qu'ils passaient à une autre forme, c'est-à-dire que c'était pas la même chose qu'écrire leur article de journal.
On peut même considérer que pendant longtemps, c'était les écrivains qui étaient journalistes. Mallarmé pouvait faire du journalisme, mais l'inverse ne se produisait pas.
Là, c'est l'inverse. Le journaliste, en tant que journaliste, a conquis la forme de livre, c'est-à-dire qu'il trouve très normal de faire un livre comme ça, qui soit à peine un article de journal. Alors, c'est pas bon, ça. La deuxième raison, c'est que c'est généraliser l'idée que chacun pouvait écrire parce que l'écriture était la petite affaire de chacun. Alors, le nombre de... avec des archives de famille, soit archives écrites, soit archives... archives dans la tête. Tout le monde a eu une histoire d'amour, tout le monde a eu, comme une fois, une grand-mère malade, une mère qui mourait dans des conditions affreuses. On se dit, ça fait un roman, ça. Et c'est que ça fait pas du tout un roman, mais vraiment pas du tout. Et puis, la troisième raison, c'est que, tu comprends, les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit pas. Vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux, les vrais clients. Les auditeurs, ils ont ce que veulent les annonceurs.
Les spectateurs.
Les téléspectateurs, oui.
Gilles Deleuze, 7e bobine.
Attends que la mâchoire s'éveille.
Et alors la troisième raison, c'est quoi?
Bah, je te dis, oui, les annonceurs, c'est des vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, bah, y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la becquette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.
Mais ça existe déjà, on préforme quels sont les besoins d'un public.
Mais c'est ça qui définit, la période de sécheresse, symbole pivot, quoi. C'est la nullité, c'est la littérature, c'est la nullité, la disparition de toute critique littéraire, on donne la promotion, c'est ça. Mais quand je dis c'est pas grave, je dis c'est évident que. Il y aura ou des circuits parallèles, ou un circuit, il y aura tout un marché noir, il y aura, etc. C'est pas possible qu'un peuple vive. La Russie, non, elle a perdu sa littérature. Elle la reconquérera, elle va la reconquérir. Mais la reconquérir, tout ça, ça s'arrange. Les périodes riches succèdent aux périodes pauvres.
Et alors,
malheur aux pauvres.
Malheureusement, sur cette idée de marché parallèle ou marché noir, ça fait quand même assez longtemps que les sujets sont préformés, c'est-à-dire qu'une année, par exemple, on voit très bien que dans les livres qui sortent, c'est la guerre, une autre année, c'est la mort des parents, une autre année, c'est l'attachement à la nature, enfin ce qu'on veut. Pourtant, rien n'a l'air de se former. Alors, comment ça ressurgit? T'as déjà vu ressurgir une période riche d'une période pauvre?
Oui.
Tu y as assisté, toi?
Oui, encore une fois. Après la libération, ça n'allait pas fort, puis il y a eu 68. Entre la grande période créatrice de la libération et le début de la nouvelle vague séquence, c'est 60.
Bien à vous.
Entre 60 et 72, mettons, il y a eu à nouveau une période riche. Ben oui, et ça s'est reformé en... C'est un peu, si tu veux, c'est ce que dit Nietzsche si bien, hein. Quelqu'un lance une flèche, il lance une flèche là dans l'espace, bon, c'est ça, ou même une période, une collectivité lance une flèche et puis elle tombe. Et puis quelqu'un vient à la ramasser et l'envoyer ailleurs. C'est, ça marche comme ça, la création, la littérature, ça passe sur des déserts.